Bonjour à tous. Soyez vraiment les bienvenus ici ce matin pour célébrer ce temps. Je dirais ce temps qui se prolonge pour ce week-end particulier. Vendredi soir, nous étions là, tout un groupe, pour contempler en ce jour où nous remémorions la crucifixion, pour contempler notre Seigneur, pour écouter sa parole, pour chanter ensemble et pour partager le repas qu'il avait institué ce même jour, la scène que nous partagerons encore tout à l'heure. Aujourd'hui, deux jours après ce week-end, et je voudrais reposer un petit peu le décor. Ces adorables bambins nous l'ont posé tout à l'heure, dans son ensemble. Et ces petites voix ont touché mon cœur dans la simplicité de cette explication. Nous voulons poser le décor de cette journée, de ce dimanche de Pâques. Et je lis dans Jean au chapitre 20, le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-le-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le décor de cette journée du dimanche de Pâques est planté. J'aimerais maintenant élargir ce décor, élargir le panorama, faire un plan large. Et ce plan large commence dans la Genèse au chapitre 2. L'Éternel Dieu, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, j'aimerais élargir le panorama à l'autre bout, au chapitre 22 de l'Apocalypse. D'un bout à l'autre. Chapitre 22, verset 1. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lumière, ni de la lumière d'une lampe, pardon, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dimanche passé, pour ceux qui étaient là, Luc, qui nous a parlé aussi du Seigneur, a dit qu'il y avait un avant et un après Jésus-Christ. Vous savez qu'on compte le temps comme ça. Et maintenant, dans ce décor, avec les deux extrêmes, ce matin, nous posons le point central. La croix est le point central de ce panorama. À chaque bout, il y a l'arbre de vie. Et au centre, il y a maintenant 2000 ans, a été plantée la croix. De ce jour-là, plus rien. N'est comme avant. Depuis ce centre, on rejoint l'arbre de vie sans passer par la case départ pour ce qui est de l'esprit. Le jour de la crucifixion, ce que nous avons contemplez vendredi soir. La croix descend dans les profondeurs du séjour des morts. Dieu lui-même, dans sa sagesse infinie, l'a plantée là, au centre du décor. Cette croix descend dans les profondeurs du séjour des morts. Mais le matin du troisième jour, ce matin, jour de la résurrection du Christ, la croix monte jusqu'au trône éternel du Dieu créateur. Une voie extraordinaire, inespérée, est ouverte pour la créature déchue vers son créateur pour l'éternité. Si j'avais été un bon dessinateur, et ma fille arrive ce soir, et l'autre n'était pas libre. Deux très bonnes dessinatrices. Mais ce dessin que j'aurais voulu vous faire voir est dans ma tête. Un dessin, un plan large, avec un arbre à chaque bout. L'arbre de vie. Avec des ténèbres qui ont envahi la terre. La croix est plantée au centre et descend dans la profondeur de ces ténèbres. Mais de la pointe de la croix s'ouvre une lumière extraordinaire qui monte vers le trône du Dieu créateur. Par le Fils, celui qui est passé par cette croix, l'agneau, le premier-né d'un grand nombre de frères. Dès ce jour sans égal, le jour au centre de tout, ce jour est le centre de tout. Le chemin vers la vie nous est ouvert. C'est un chemin de lumière qui part du sommet de cette croix et qui s'ouvre largement vers le royaume éternel. Extraordinaire, ce royaume qui est décrit dans l'Apocalypse, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. C'est le fleuve de la vie lui-même. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est l'eau vive, le pain de vie. » C'est le fleuve de vie du jardin d'Éden et de la nouvelle Jérusalem, ce que nous appelons le paradis, qui descend vers la croix pour nous toucher au cœur de notre sécheresse. La lumière au cœur de nos ténèbres, la vie qui vient terrasser la mort qui nous entraînait vers son royaume. Mais le seul canal étroit, c'est la croix. Il nous faut passer par cette croix. Notre vie pervertie doit y être crucifiée également pour pouvoir, nous aussi, ressusciter en fils du royaume et entrer dans l'étroite source du fleuve de vie. Ce n'est pas à droite ou à gauche, juste un peu sur le côté. Il n'y a pas d'accès de traverse, il n'y a pas de possibilité de bénéficier d'une simple éclaboussure. Il faut passer par ce chemin difficile d'abandon de nos illusions, de nos vies qui conduisent à la mort, de notre identité mondaine incapable de prendre ce chemin pour retrouver le cœur du Père. Et jamais, dès ce moment-là, n'avoir à vivre l'abandon de ce Père, comme Jésus, incarné en homme, l'a vécu. Et c'est pour cela qu'il l'a fait pour nous. Et comme, malheureusement, et c'est une nouvelle terrible, que nous devons à tout prix crier sur les toits, seront abandonnés pour toujours tous ceux, sans exception, qui n'auront pas passé par cette croix, par l'œuvre incontournable, le sang de celui qui s'est donné lui-même pour y monter. Le Fils de Dieu, fait homme et immolé, pour nous ouvrir ce seul chemin de la croix où nos péchés seront cloués pour toujours. Ceux qui auront passé par là échapperont au terrible châtiment du jugement dernier, un peu comme au jeu de loi. Alors pour les jeunes, le jeu de loi, c'est l'ancêtre des jeux d'arcade, hein. Ceux qui auront passé par là échapperont au châtiment du jugement dernier. Et même si la vie sur cette terre continue encore un peu, l'accès direct est déjà garanti. Notre vie entière, notre espérance est tendue vers ce jour promis où cette échelle descendra vers nous en la personne de Jésus revenu nous chercher. Mais ceux qui voudront sauver leur vie en s'accrochant à ce monde passager, dénué de sens, ceux-là perdront la vie qui leur était pourtant ouverte dans le royaume éternel, le nouvel Éden. j'aimerais encore poser un autre bout de décor. Jésus, dans Matthieu 13, 31, dit, « Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » La graine de moutarde, c'est la foi que Jésus lui-même vient planter dans nos vies au passage de la croix. J'aimerais vous conter une histoire qui n'est pas dans la Bible. Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir très en colère contre un ami qui s'était montré injuste envers lui. Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi de combattre ces sentiments qui causent un grand tourment. Dans mon âme se joue alors une âpre bataille. Deux loups s'y confrontent. Un des loups est méchant. Il représente la peur, la colère, l'envie, la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. L'autre est bon. Il représente la joie, la paix, l'amour, l'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la compassion, la confiance. La même bataille se joue en chacun de nous. Le garçon alors demanda, « Lequel des deux gagne ?» Le grand-père sourit et répondit doucement, « Celui que tu nourris. » Une autre graine a été semée en nous. Une graine de doute a été semée par le malin, par le serpent, dès la Genèse. Permanente et toujours alimentée. En premier lieu, il nous faut nous rappeler, comme nous venons de le voir, qu'une graine pour germer et grandir doit mourir. C'est Jésus lui-même qui dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette graine de moutarde, notre foi est si petite. Mais si elle est alimentée, elle devient tellement grande qu'elle abrite les oiseaux, nos familles, nos frères, nos prochains. Et les fruits sont comme la graine du semeur. Un grain en donne 30, 50 ou 100. Mais si elle n'est pas alimentée, c'est l'autre graine semée en Adam et Ève à la chute par Satan, et qui s'est répandu en nous, qui prendra le dessus. Car elle est alimentée en permanence par le péché. En conclusion, chers frères et sœurs, notre vie passée, celle qui est accrochée à ce monde, est morte. Elle a été rachetée en sa mort sur cette croix. Elle lui appartient donc dès notre passage à la croix. Car nous vivons maintenant en lui seul, par cette graine de foi qu'il a semée en nous. Et nous devons, pour grandir, nourrir cette graine avec un soin particulier et permanent. Rappelons-nous que nous ne pouvons pas la nourrir à notre sauce, par nos propres recettes, nos propres moyens, nos propres forces, mais seulement par une relation étroite en celui qui l'a semée. Il est l'eau vive et il la nourrit lui-même par sa vie en nous. Cette graine de foi ne grandit que si elle est arrosée par le fleuve d'eau vive duquel elle est née. Et elle doit absolument y plonger et y étendre toujours plus ses racines, car c'est ainsi qu'elle se nourrit, qu'elle grandit et qu'elle résiste aux mauvaises herbes et aux épines. J'ai rajouté ce matin dans mon temps de lecture ce petit passage d'un psaume, le psaume 2, sauf erreur. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Et j'aime ce verset qui vient. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais sans cette eau vive, elle se dessèche rapidement. Et alors, elle est très rapidement étouffée par les mauvaises graines semées en nous dès notre conception, qui, elles, se nourrissent naturellement et facilement à leur source dans notre propre nature de péché. Je vous laisse cette image, un arbre de vie à chaque extrémité de la création, mais également du chemin de nos vies à chacun. Mais au centre est la croix qui conduit directement à la lumière, à la source du fleuve de vie, pour ceux qui l'acceptent comme chemin, ou alors directement aux ténèbres, à la mort éternelle de l'âme, pour ceux qui la refusent. Un Corinthiens 1, 18 nous dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Chers amis, quel que soit notre choix, qu'on le veuille ou non, la croix est au centre de la vie et de la mort, et la charnière de nos destins. Soit une échelle vers la vie, soit une trappe vers la mort, et il n'y a pas d'autre passage. Et si le long du chemin, de notre chemin, il est encore possible de monter par elle vers la vie, lorsque la trappe vers la case départ s'ouvre, il est trop tard. Et aucun de nous ne sait quand elle s'ouvrira. Alors, pour ceux qui n'ont pas choisi, surtout, n'attendez plus. Faites le bon choix de la croix. Acceptez la vie pour vous aussi. Amen. Oh oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour ce jour extraordinaire où tu es venu toi-même prendre ta place de toute éternité au centre de nos destinées, au centre même de la création, au centre de la vie et de la mort, parce que tu as vaincu cette mort en ressuscitant ce jour dont nous nous rappelons aujourd'hui. Tu nous as ouvert ce chemin vers la vie. Tu es le fleuve de vie, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as envoyé aussi ton esprit pour nourrir cette vie jour après jour, pour nourrir cette graine, qu'elle grandisse, que nous soyons toujours plus remplis de ta vie, Seigneur, et que nous puissions marcher, quel que soit l'état du chemin, quelles que soient nos circonstances, dans ta lumière, remplis de cette eau vive. Et Seigneur, je te prie que ce matin, par ton esprit que tu nous as envoyé, tu viennes toucher la profondeur de tous les cœurs ici ce matin, Seigneur. Que ceux pour qui cette croix est encore aujourd'hui synonyme de mort, tu touches leur cœur, Seigneur, pour qu'ils lèvent les yeux vers toi, vers ce fleuve de vie. Et Seigneur, je te prie également pour tous ceux ici qui ont déjà fait ce choix, qu'ils puissent être renouvelés chaque jour qui viennent maintenant, pour étendre leurs racines en toi, Seigneur, que cette graine soit nourrie, que ce grain de moutarde grandisse et qu'il puisse abriter les oiseaux du ciel, qu'il puisse abriter ceux qui sont dans la peine, ceux qui n'ont pas encore compris. Père éternel, je veux te rendre grâce ce matin. Parce que tu ne nous as pas laissés errer sur cette terre sans but, mais tu es venu planter cette croix pour que nous puissions, par elle, monter vers toi, dès maintenant, par ton esprit. Et Seigneur, nous voulons te dire ce matin ensemble que nous t'attendons. Notre vie entière est tournée vers toi, attendant ce jour où tu nous prendras pour nous emmener dans ce royaume, dans ton royaume, auprès de l'arbre de vie pour toujours. Et Seigneur, encore maintenant, je te prie que personne ici dans cette salle ne puisse choisir de descendre vers le royaume des morts. Par ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, je te demande de toucher nos cœurs à chacun en fonction de ce que tu connais de chacun d'entre nous. Par ton nom. Amen. Dans ce vaste décor que nous avons essayé de partager ce matin, le vendredi, avant la crucifixion, Jésus a invité ses disciples à un repas particulier. Un repas qui était quelque part le départ de ce week-end, le départ de cette vie qu'il allait poser par sa mort à lui. Et avec ses disciples, il a partagé ce pain et ce vin symbole de la vie, de sa vie. Il est le pain de vie et il est l'eau vive. Et nous voulons maintenant ensemble, en partageant ce repas, pour tous ceux qui ont levé les yeux vers le sommet de la croix, vers l'ouverture de la vie, nous voulons, en communion, ensemble, non seulement, comme nous l'avons dit vendredi, contempler la croix et nous arrêter dessus, mais suivre ce fleuve de vie, puisqu'il est vivant, qui nous emmène vers le trône éternel. Et ensemble, nous voulons partager ce pain et ce vin pour bien ancrer dans nos vies où sont tournés nos yeux. Réfléchissons ce matin. Où sont tournés nos yeux? Vivons ce temps de communion. C'est un repas que le Seigneur a établi dans sa famille. Et c'est ensemble que nous voulons partager ce repas.
Merci pour ce qui a été partagé. Merci pour ce rappel de l'importance de la croix et l'importance de la résurrection. Sans la résurrection, la croix n'aurait pas beaucoup de sens. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine. En plus de ce qui est indiqué, mardi dans une semaine, donc le 25, aura lieu l'étude biblique des aînés. Je vous rappelle aussi le week-end en commun, les 13 et 14 mai, donc il n'y aura pas de culte ici. Week-end bien rempli, week-end de partage, où on aura à recevoir et à donner. Des nouvelles des santé des uns et des autres. Élodie va bien, donc elle est bien rentrée à la maternité. Elle a passé la semaine là-bas. La césarienne est programmée pour mardi. Donc voilà, on peut penser à elle, prier pour elle. Sandy transmet-lui toutes nos salutations. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Anne-Lise. Est-ce que quelqu'un en aurait eu? Si ce n'est pas le cas, on peut continuer à penser à elle, à prier pour elle. Elle est toujours à beau séjour. Que Dieu la bénisse, la renouvelle aussi. Je vous invite à vous lever, je vous lis. Hein?
On peut peut-être juste,
ouais.
Je sais pas si
oui.
Moyen,
non.
Ah ouais. Vendredi, les enfants, me permet juste, Emmanuel voulait nous envoyer un petit email, je crois. Les enfants, lors de notre partage vendredi soir, ils se sont retrouvés, puis ils ont aussi exprimé ce qui était Pâques, avec des mots, avec des pierres, un chemin, une croix. Vous pouvez passer le voir, c'est d'abord.
Ouais. Merci Philippe. Restez debout, je vous lis encore deux versets dans Matthieu, dans Marc 13. C'est Jésus qui parle. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, c'est Christ. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voilà notre espérance. Amen. Bon dimanche de Pâques, soyez bénis.